Notre Dieu, tu es partout près de nous. Tu es au-dessus de nous pour nous faire du bien. Tu es au-dessous de nous pour nous porter. Tu es devant nous pour nous conduire. Tu es derrière nous pour nous pousser. Tu es tout autour de nous pour nous entourer de ta tendresse. En ce moment si particulier où nous sommes chacun enfermés chez nous, tu es bien là, dans notre maison, avec nous assis à la table, encore à nos côtés dans notre sommeil, et nous tenant la main dans nos veilles. Tu nous rassures dans nos peurs, tu accueilles nos questions et nos colères. Tu es là, l'essentiel en nous et avec nous. La grâce de Dieu notre Père, de Jésus-Christ notre Sauveur et de l'Esprit-Saint le Consolateur nous est donnée maintenant à tous et à chacun. Amen. Bienvenue. Bienvenue à chacun de vous pour ce temps de culte ensemble. Quatrième dimanche de carême, nous devions ce matin nous retrouver au temple pour vivre le partage de la Sainte Cène, puis notre assemblée générale. Nous ne pouvons partager aucun des deux. Pourtant, nous sommes ensemble, différemment, mais ensemble par la puissance de l'Esprit de Dieu qui ne connaît aucune frontière ni interdiction. Ce matin, nous allons vivre un culte en communion fraternelle invisible, comme nous le célébrons chaque dimanche. Un culte pour louer Dieu, pour écouter sa parole, pour le prier et le chanter même, pour que nos vies soient portées par la bonne nouvelle dont nous avons tant besoin. Louons Dieu en écoutant le psaume proposé pour ce matin. Il s'agit du psaume 23, tellement parlant. Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans des champs d'herbes vertes. Il me conduit au calme près de l'eau. Il me rend des forces. Il me guide sur le bon chemin pour montrer sa gloire. Même si je traverse la sombre vallée de la mort, je n'ai peur de rien, Seigneur, car tu es avec moi. Ton bâton de berger est près de moi, il me rassure. Tu m'offres un bon repas sous les yeux de mes ennemis. Tu verses sur ma tête de l'huile parfumée. Tu me donnes à boire en abondance. Oui, tous les jours de ma vie, ton amour m'accompagne et je suis heureuse. Je reviendrai pour toujours dans la maison du Seigneur. Dans le recueillement, plaçons-nous en vérité devant Dieu. Seigneur, nous avons l'habitude d'être en chemin et de dérouler nos journées au fil de rencontres et d'événements variés. Mais aujourd'hui, il nous semble que notre vie s'arrête, ou bien qu'elle s'emballe dans le désarroi et l'inquiétude. Les rues sont vides, nos sorties limitées, et notre quotidien et nos familles bouleversées. Où est le chemin? Où sont nos prochains? Sois notre secours. Nous nous présentons devant toi tels que nous sommes, comme des enfants devant un père. Nous voulons ouvrir grand la porte de ta maison, te parler, te rencontrer et cheminer avec toi, car nous savons que ta présence nous libère. Dans la Bible, Jésus nous encourage sans cesse à reprendre le chemin. Il y a toujours un chemin, même si nous sommes enfermés. Le chemin se vit dans notre corps, dans nos cœurs et notre esprit. Il y a toujours un prochain qui a besoin de nous et dont nous avons besoin, au bout du fil, par messagerie ou au seuil de nos maisons. Dieu est bienveillant et n'abandonne aucun de ses enfants. Demandons-lui son aide, sa force et sa paix pour trouver le chemin et rencontrer nos prochains. Nous sommes les enfants de l'esprit de délivrance. Dieu nous pardonne. Marchons vers son royaume. Amen. Et pour le temps de la volonté de Dieu, écoutons ensemble l'évangile de Matthieu au chapitre 6, les versets 31 à 34. Jésus parle. Ne vous inquiétez donc pas en disant « Qu'allons-nous manger? Qu'allons-nous boire? De quoi allons-nous nous vêtir ?» Ce sont là toutes choses dont les païens sont en quête. Or votre Père céleste sait que vous avez besoin de cela. Cherchez d'abord son royaume et sa justice, et tout cela vous sera donné en plus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, demain s'inquiétera de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Avant de nous mettre à l'écoute des textes bibliques, prions ensemble. Dieu Père, ta parole est comme du pain. Casse sa croûte pour que nous puissions goûter sa mie. Donne-nous de la mâcher afin que nous puissions la digérer. Donne-nous de la savourer afin que nous ayons envie d'y revenir. Donne-nous d'accompagner avec elle les moments si divers de nos vies, comme le pain accompagne les plats variés de la table. Donne-nous de la partager comme le pain se partage, selon le goût et l'appétit de chacun. Ta parole est aussi ordinaire et aussi essentielle que le pain. Elle n'est pas une brioche réservée aux estomacs délicats, elle n'est pas non plus un étouffe chrétien imposé aux estomacs rebelles. Ta parole, c'est le vrai pain, descendu du ciel pour la nourriture des hommes. Amen. Trois textes nous sont proposés pour ce matin. Le premier dans le premier testament, dans le livre de Samuel, le premier livre de Samuel au chapitre 16, les versets 1 à 13. Le Seigneur dit à Samuel, « Est-ce que tu vas pleurer Saül encore longtemps? C'est moi qui l'ai rejeté, il ne sera plus roi d'Israël. » Prends de l'huile et va à Bethléem, je t'envoie là-bas chez Jessé. En effet, j'ai choisi parmi ses fils le roi qui me plaît. » Samuel demande, « Comment est-ce que je peux faire cela? Si je vais à Bethléem, Saül va l'apprendre et va me tuer. » Le Seigneur répond, « Prends avec toi un veau, tu diras, je viens offrir un sacrifice au Seigneur. Invite Jessé à la cérémonie, je te dirai ce que tu dois faire. Je te montrerai celui que j'ai choisi, et tu verseras de l'huile sur lui pour le faire roi. » Samuel fait ce que le Seigneur a dit. Quand il arrive à Bethléem, les anciens de la ville sont inquiets. Ils viennent à sa rencontre et demandent, « Est-ce que tu viens nous annoncer une bonne nouvelle ?» Samuel répond, « Oui, je viens offrir un sacrifice au Seigneur. Rendez-vous pur pour la cérémonie et venez avec moi. » Samuel dit aussi à Jessé et à ses fils, « Rendez-vous pur, je vous invite. » Quand Jessé et ses fils arrivent, Samuel voit Eliab et pense, « C'est sûrement lui que le Seigneur a choisi. » Mais le Seigneur dit, « Cet homme est beau et il est grand, mais ne fais pas attention à cela, ce n'est pas lui que j'ai choisi. Je ne juge pas comme les êtres humains. Les gens font attention à ce qui se voit, mais moi, Je regarde le fond du cœur. Ensuite, Jessé appelle Abinadab. Il le fait passer devant Samuel, mais Samuel dit « Ce n'est pas non plus cet homme-là que le Seigneur a choisi. » Jessé fait passer Shamma, et Samuel dit « Ce n'est pas lui. » Jessé fait passer ainsi sept de ses fils, et Samuel dit « Le Seigneur n'a choisi aucun d'eux. » Et il ajoute « Est-ce que tes fils sont tous là ?» Jessé répond « Non, il y a encore David, le plus jeune, il garde les moutons. » Samuel lui dit « Envoie quelqu'un le chercher, nous ne commencerons pas le repas avant son arrivée. » Aussitôt Jessé fait venir David. David a le teint clair avec de beaux yeux, bleus et un beau visage. Alors le Seigneur dit à Samuel « C'est lui, verse de l'huile sur sa tête pour le faire roi. » Samuel prend l'huile et la verse sur la tête de David devant ses frères. L'Esprit du Seigneur descend sur David et à partir de ce jour-là, il ne le quitte plus. Samuel part et retourne à la ville de Rama. Le deuxième texte se trouve dans le Nouveau Testament, dans la lettre aux Éphésiens, au chapitre 5, les versets 8 à 14. « Avant, vous étiez dans la nuit, mais maintenant, en étant unis au Seigneur, vous êtes dans la lumière. Vivez comme des gens qui appartiennent à la lumière. Ce que la lumière produit, c'est toute action bonne, juste et vraie. Cherchez ce qui plaît au Seigneur. Les actions qui appartiennent à la nuit ne produisent rien de bon, n'y participez pas, au contraire, dénoncez-les. Ce que ces gens-là font en cachette, on a honte d'en parler. » Pourtant, quand on dénonce ce qu'ils font, leurs actions apparaissent en pleine lumière. Tout ce qui apparaît clairement devient lumière. C'est pourquoi on dit « Réveille-toi, toi qui dors, lève-toi du milieu des morts et le Christ t'éclairera de sa lumière. » Et enfin, le dernier texte est dans l'Évangile de Jean au chapitre 9. Sur le chemin, Jésus voit un homme qui est aveugle depuis sa naissance. Les disciples de Jésus demandent « Maître, cet homme est aveugle depuis sa naissance. Qui a péché, lui ou ses parents ?» Mais puisqu'il est aveugle, Jésus répond « Ni lui, ni ses parents. Puisqu'il est aveugle, on va reconnaître clairement que Dieu agit pour lui. Pendant le jour, nous devons accomplir le travail de celui qui m'a envoyé. La nuit arrive et personne ne pourra travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. » Après que Jésus a dit cela, il crache par terre, avec sa salive il fait de la boue et il met la boue sur les yeux de l'aveugle. Ensuite il lui dit « Va te laver dans l'eau à Siloé ». Le nom Siloé veut dire « envoyer ». L'aveugle y va et se lave. Quand il revient, il voit clair. Cet homme était un mendiant. Ses voisins et ceux qui avaient l'habitude de le voir avant disent « Est-ce que ce n'est pas l'aveugle qui était assis et qui mendiait ?» Les uns disent « Oui, c'est lui !» D'autres disent « Non, c'est quelqu'un qui lui ressemble !» Mais l'homme dit « C'est bien moi !» Alors les gens lui demandent « Tes yeux se sont ouverts comment ?» Il répond « L'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue, il l'a mise sur mes yeux et m'a dit « Va à Siloé et lave-toi, j'y suis allé, je me suis lavé et maintenant je vois clair. » Les gens lui demandent « Où est-il cet homme ?» Il répond « Je ne sais pas. » On conduit chez les pharisiens l'homme qui avant était aveugle. Le jour où Jésus a fait de la boue et a ouvert les yeux de l'aveugle, c'était le jour du sabbat. Les pharisiens eux aussi demandent à l'homme « Tu vois clair maintenant? Qu'est-ce qui s'est passé ?» L'homme leur dit « Il m'a mis de la boue sur les yeux, je me suis lavé et maintenant je vois. » Quelques pharisiens disent « L'homme qui a fait cela ne vient pas de Dieu, en effet il ne respecte pas le jour du sabbat. » Mais d'autres disent « Un homme qui est pécheur ne pourrait pas faire des signes aussi étonnants. » Les pharisiens ne sont pas d'accord entre eux. Alors ils demandent encore à l'homme qui était aveugle « Et toi, qu'est-ce que tu dis de celui qui t'a ouvert les yeux ?» Il répond « C'est un prophète. » Mais les chefs juifs ne veulent pas croire que cet homme était aveugle et que maintenant il voit clair. C'est pourquoi ils font venir ses parents et leur demandent « Est-ce que cet homme est bien votre fils ? Vous dites qu'il est aveugle depuis sa naissance, maintenant il voit. Que s'est-il passé ?» Les parents de l'homme répondent « Nous le savons, c'est bien notre fils, il était aveugle depuis sa naissance. Maintenant il voit clair, mais ce qui s'est passé, nous ne le savons pas. Qui lui a ouvert les yeux, nous ne savons pas. Interrogez-le, il est bien assez grand et répondra. » Les parents disent cela parce qu'ils ont peur des chefs juifs. En effet, ceux-ci se sont déjà mis d'accord, ils vont chasser de la maison de prière tous ceux qui affirment « Jésus est le Messie ». C'est pourquoi les parents de l'homme disent « Il est assez grand, interrogez-le. » Alors pour la deuxième fois, les pharisiens appellent l'homme qui était aveugle et lui disent « Dis la vérité devant Dieu. Nous le savons, celui qui t'a guéri est un homme pécheur. » Il leur répond « Je ne sais pas si c'est un pécheur, mais je sais une seule chose, j'étais aveugle et maintenant je vois clair. » Ils lui demandent « Qu'est-ce qu'il t'a fait? Comment est-ce qu'il t'a ouvert les yeux ?» L'homme leur répond « Je vous l'ai déjà dit, mais vous n'avez pas écouté. Vous voulez l'entendre une deuxième fois? Pourquoi? Vous avez peut-être envie de devenir les disciples de Jésus, vous aussi ?» Alors ils se mettent à l'insulter, ils lui disent « C'est toi qui es le disciple de cet homme, nous sommes les disciples de Moïse. Nous savons que Dieu a parlé à Moïse, mais cet homme-là, nous ne savons pas d'où il vient. » L'aveugle guéri leur répond « Voilà une chose étonnante, il m'a ouvert les yeux et pourtant vous ne savez pas d'où il vient. Nous le savons, Dieu n'écoute pas les pécheurs, mais il écoute celui qui est fidèle envers lui et qui fait sa volonté. On n'a jamais entendu dire « Quelqu'un a ouvert les yeux d'un homme qui est né aveugle. » L'homme qui fait cela vient de Dieu, sinon il ne pourrait rien faire. » Ils lui répondent « Depuis ta naissance, tu es tout entier dans le péché et tu veux nous apprendre quelque chose ?» Alors ils le mettent dehors. Jésus apprend que les pharisiens ont mis dehors l'aveugle guéri. Il va donc le trouver et lui dit « Est-ce que toi tu crois au Fils de l'homme ?» L'homme répond « Seigneur, qui est-ce ? Je veux croire en lui. » Jésus lui dit « Eh bien, tu le vois, celui qui te parle maintenant, c'est lui. » L'homme dit « Seigneur, je crois. » Et il se met à genoux devant Jésus. Ensuite Jésus dit « Je suis venu dans ce monde pour que les aveugles voient clair et pour ceux qui voient clair deviennent aveugles. » Voilà le jugement. Quelques pharisiens sont là, ils entendent les paroles de Jésus et lui demandent « Est-ce que nous sommes aveugles, nous aussi ?» Jésus leur répond « Si vous étiez aveugles, vous ne seriez pas pécheurs, mais en fait vous dites « Nous voyons clair. » C'est pourquoi vous restez des pécheurs. » Les gens font attention à ce qui se voit, mais moi je regarde au fond du cœur, dit Dieu à Samuel, qui cherche le nouveau roi d'Israël dans le passage que nous avons entendu du livre de Samuel. Aujourd'hui, que voyons-nous ? Des rues vides, des magasins fermés, des personnes qui ont peur et qui se protègent, des hôpitaux bondés, des familles qui peinent à s'organiser, des travailleurs inquiets. Nous voyons tout cela avec nos yeux. Et qu'y a-t-il au fond de notre cœur? C'est là que se trouve notre vie en vérité. Qu'exprime-t-elle? Que voit Dieu tout au fond de nous? Peur, angoisse, énervement, colère, inquiétude, tous ces sentiments sont humains. Mais en y regardant de plus près, nous y voyons aussi de la solidarité, de l'amour, de la sérénité, de la joie même, de la reconnaissance, de l'inventivité et de la résilience. C'est sûr, ce que Dieu veut pour nous se trouve dans la seconde liste. Notre Dieu, qui est le Dieu de la vie, nous appelle encore et toujours à la choisir dans notre quotidien bouleversé. Bien sûr, ce n'est pas facile. Pourtant, ensemble, par la prière et la force que Dieu nous donne, nous sommes appelés à la recevoir en nous et pour nous, et ainsi la partager avec ceux qui nous entourent. En étant unis au Seigneur Jésus, vous êtes dans la lumière. C'est ainsi que la lettre de Paul aux Éphésiens nous encourage dans notre deuxième texte. Et entendez bien, nous n'avons pas à la chercher, cette lumière. Nous l'avons déjà reçue. C'est cette fameuse grâce, chère aux protestants. Nous sommes déjà au bénéfice de l'amour de Dieu, et donc de sa lumière, de sa confiance et de son espérance. Cette lumière pour nos vies est là, tout proche. Dieu veut nous la donner, à nous d'ouvrir grand nos vies pour la recevoir dans la reconnaissance. La lumière est contagieuse, elle aussi, et elle se diffuse en abondance, sans risque. Nous nous en rendons bien compte en ce moment où le soleil brille généreusement et où, vous l'avez sûrement remarqué comme moi, la nature continue son œuvre de transformation des saisons. C'est bien normal et en même temps, cela me semble presque insolent, comme si elle nous disait « Toi, tu t'arrêtes, mais moi, je vis ». En l'absence presque totale de trafic humain en ville, les insectes et animaux des villes reprennent leur place. La vie est belle, oui, vraiment. Et tout cela nous est donné aussi. Contempler la vie simplement, accueillir la lumière donnée et rayonnée autour de nous. Le texte d'Évangile est la guérison de l'aveugle-né chez Jean, un des seuls miracles de cet Évangile qui en est avare. Il y a presque 3 ans, jour pour jour, le groupe de jeunes de notre paroisse qui avait échangé sur ce texte vous avait partagé ses réflexions lors d'une prédication, en donnant un éclairage sur chaque personnage du texte. Je choisis de reprendre ici l'éclairage des disciples. Ils affirment immédiatement le péché comme étant la cause de la cécité de l'aveugle. Bien qu'ils ne sachent pas quel est ce péché et qui en est l'auteur, l'aveuglement physique est ici interprété sans autre questionnement, comme une punition divine. Dieu leur apparaît donc comme la cause naturelle d'un inexpliqué, comme une sorte de magicien qui servirait à justifier les lacunes et insuffisances des explications humaines. Leur croyance se conforme à la pensée commune, dans une perspective ainsi réduite et aveuglée par leurs préjugés. Les disciples croient, d'accord, puisqu'ils suivent bien Jésus, mais en même temps ils demandent des explications, comme si la foi ne suffisait pas. Je ne sais pas. Suffit-elle la foi ? Ou avons-nous besoin d'arguments pour la vivre ? C'est bien humain. Nous sommes tous les disciples, qui souvent plaçons les questions avant l'humain, la logistique avant la spontanéité, le pourquoi, le il faut, avant le vivons, aimons. Jésus retourne la situation en leur disant que la cause n'est pas importante, qu'il faut voir d'abord l'humain et avancer ensemble dans l'espérance. Cela est une bonne nouvelle pour nos vies, où souvent nous aussi cherchons des pourquoi sans réponse. Jésus nous dit alors : ne regarde pas en arrière, ce qui est fait est passé. Ne t'enferme pas dans les résolutions des grandes questions de la vie. Ne t'inquiète pas pour demain. Au contraire, vis aujourd'hui avec ce qu'il t'est donné, avec ton histoire et ton identité, avec ceux qui t'entourent, avance dans la promesse du royaume qui vient. Et moi, le Christ, sur ton chemin, je suis là pour t'aider. Je suis ta sûre lumière. Frères et sœurs, Jésus est la lumière du monde, même quand il lui semble traverser la nuit. Il nous donne sa lumière gratuitement et nous invite à la recevoir. Soyons messagers de lumière. Amen. Partageons notre confiance avec ces mots d'une confession de foi écrite par un de nos paroissiens, Norbert. Dieu est celui qui, dès l'aurore, me renouvelle 24 mesures de ce fil d'Ariane divin, tissé par Jésus le Christ, pour me permettre de progresser au sein du labyrinthe qu'est ma vie quotidienne. Dieu est celui qui demeure constamment présent à mes côtés et en moi qui ne suis qu'un roseau fragile. Dieu est celui dont l'Esprit Saint m'insuffle dans un doux murmure l'inspiration m'offrant de devenir un roseau pensant, selon l'expression lumineuse de Pascal. Dieu est celui qui, au soir de ma vie, renouvellera en moi cette assurance merveilleuse que ses bras sont déjà grands ouverts pour m'accueillir au sein de son royaume de quiétude, de joie et de félicité, où je retrouverai ceux qui m'ont transmis la vie et ceux qui m'ont aidé à me construire. Amen. Et voici maintenant le temps liturgique de l'offrande, toujours présent dans nos cultes. L'offrande vécue en communauté, même invisible, nous invite à nous souvenir du don de Dieu en Jésus-Christ et de tous ses bienfaits jour après jour. Dans la reconnaissance, nous sommes invités à donner à notre tour, en Église, mais aussi autour de nous par des mots, des gestes et par tout ce que nous inspire l'amour de Dieu reçu en vérité. Nous vous invitons à poursuivre vos dons pour notre Église afin qu'elle vive pour sa mission d'annonce de l'Évangile et d'accompagnement de chacun. Vous pouvez envoyer vos dons par chèque à l'EPU d'Annecy, boîte postale 80-260, 74 007, Annecy-Cedex. Ou encore directement à notre trésorier. Adressez-vous à nous pour l'adresse. Vous pouvez mettre en place un virement ou faire un don en ligne sur le site national. N'hésitez pas à vous rapprocher de nous. Que notre don soit joyeux. Dieu éternel, merci pour tous ces gestes que nous enseigne jour après jour ton amour. Sois notre secours et notre lumière. Amen. Quelques annonces. Notre assemblée générale est reportée au dimanche 14 juin à 9h30. En cette période de confinement, vous pouvez me contacter au numéro de téléphone de la paroisse, m'écrire un mail, vous trouverez tout cela sur le site. Vous pouvez contacter également le président du conseil presbytéral, Pierre Benoît. Nous restons à votre écoute. Chaque jeudi et dimanche seront publiés sur le site une méditation de mi-semaine et un culte en version audio et texte. Vous pouvez écouter et relire toutes les prédications en ligne sur notre site. Vous pouvez encore écouter des cantiques et chanter sur le site de notre église cantique.fr. Vous pouvez nous transmettre vos intentions de prière que nous relayerons à notre groupe de prière qui continue à se retrouver en communion invisible chaque semaine à l'heure habituelle. Vous pouvez profiter des cultes radiophoniques ou télévisés. Toutes les adresses Internet se trouve sur notre site disponible. Vous pouvez encore aller visiter le site de notre Église nationale, visionner des prédications sur Pasteur du Dimanche, retrouver les méditations quotidiennes de Pain Quotidien. Cette situation particulière nous rappelle enfin l'indispensable solidarité que nous sommes appelés à vivre dans l'attention aux plus fragiles d'entre nous. Prions maintenant les uns pour les autres. Notre Dieu, notre Père, nous voulons adresser nos prières ce matin à tous les chrétiens et les croyants qui, dans cette crise mondiale de l'Est à l'Ouest et du Nord au Sud, font monter vers toi leurs prières. Nous ne sommes pas meilleurs que les autres, mais comme dans toute crise et tempête de nos vies, nous ne voulons pas oublier que c'est toi qui nous tiens et nous conduis. Nous choisissons alors de ne pas réduire notre vie d'aujourd'hui et de demain à ce que nous pouvons en voir. Mais dans la confiance, nous te remettons nos vies. Libres ou enfermés, nous sommes avec toi. Bien portants ou malades, nous sommes avec toi. Avec ou sans travail, nous sommes encore avec toi. Seuls ou en famille, nous sommes avec toi. Calmes ou angoissés, nous sommes avec toi. Et toi, notre Dieu, tu es avec nous. Aide-nous à vivre notre quotidien bouleversé à ta lumière, en nous appuyant sur toi, le matin en nous réveillant, dans notre journée quand nous nous inquiétons ou nous réjouissons, et encore au coucher pour te remettre notre nuit. Donne-nous d'être des messagers de lumière, pour nous-mêmes d'abord, puis pour ceux qui nous entourent, et pour chaque prochain que nous trouverons d'une manière ou d'une autre sur nos chemins. Nous te remettons les soignants, donne-leur la force et la persévérance dont ils ont besoin. Nous te prions pour toutes celles et ceux qui travaillent pour que notre vie continue malgré tout, dans les services de l'État, les commerces alimentaires ou les transports. Nous te remettons les malades et leurs proches privés de visite. Nous te remettons les oubliés de notre société, sans abri, prisonniers et migrants. Nous te prions pour nos proches, ceux pour qui nous sommes inquiets. Nous prenons enfin un temps de silence pour te confier nos prières personnelles. Et nous unissons toutes nos prières en disant d'une même voix, rassemblées par l'invisible communion du cœur, la prière que le Christ nous a lui-même enseignée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Recevons l'envoi et la bénédiction de Dieu. Puisque ce temps nous est donné, prenons le temps de le vivre calmement, différemment, entièrement et en vérité, à l'écoute de notre intérieur et à l'écoute de notre prochain. Prenons le temps de regarder, de sentir, de toucher et de goûter. Prenons le temps de nous émerveiller, malgré tout. Prenons le temps de nous interroger. Quel est le sens de ma vie? Notre Dieu est le Dieu qui aime, qui accompagne et qui porte. Il est notre Dieu hier, aujourd'hui et demain. Il est avec nous sur notre chemin. Il est le sens de notre vie. Notre Dieu éternel nous bénit et nous garde. Le matin, à midi et le soir, il est notre paix hier, aujourd'hui et demain. Nous sommes bénis. Amen. Bon dimanche à toutes et à tous, et nous nous retrouvons sur ce site jeudi pour la méditation de mi-semaine, puis dimanche prochain pour le culte. Prenez soin de vous, prenez soin des autres. À bientôt !